Par quatre chemins, le podcast qui relie les histoires. Vous est-il arrivé de vous interroger sur le parcours des gens? De vous demander ce qui avait conduit cette vendeuse à domicile indépendante à se lancer alors qu'elle a baigné comme salariée dans le secteur associatif? Ou pourquoi cette cadre commerciale parisienne avait décidé de reprendre une entreprise de plomberie en province? En regardant dans le rétro, savez-vous dans quelles traces vous avez marché, vous, pour faire ce que vous faites aujourd'hui? Par quatre chemins s'intéresse aux histoires qui font les parcours. Aujourd'hui, Apolline Marmin, des Beaux-Arts à la cuisine. Depuis juin 2023, Apolline Marmin développe avec Léandre Lelon Cruchon Conserverie. Une conserverie qui transformera en sauce, soupe, compote et autres ketchup des fruits et légumes invendus et invendables des fermes locales. Installé à Redon, il souhaite valoriser le travail des producteurs et à terme proposer une petite restauration dans une guinguette itinérante. J'ai rencontré Apolline, dont l'énergie et la détermination m'ont emporté.
Moi, je suis cuisinière. Mon père est maraîcher, le père de Léandre est vigneron, la mère de Léandre est traiteur. On s'est installé à Redon il y a un an pour un boulot que j'avais à la Morinet, qui est un restaurant à la ferme. Le but, c'était de travailler tous les produits de la ferme, donc sur le potager, les bêtes, donc les agneaux, les poules, la volaille. Et en fait, sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui allaient au compost parce qu'on n'avait pas le temps de les transformer, ou alors qu'il y avait des périodes de creux au potager, et du coup, si on avait eu des conserves, ça nous aurait bien sauvé la mise pour nous en cuisine. Et de là, nous est venue l'idée d'une conserverie, en échangeant un peu avec les amis de mon père qui est maraîcher, avec mon père, avec les maraîchers locaux, etc. On s'est dit, en fait, il y a un truc à faire pour apporter une nouvelle rémunération et pour éviter le gaspillage alimentaire. Et du coup, en étudiant notre écosystème, l'idée de la conserverie s'est bien établie, et l'idée d'une petite restauration me permettait de continuer mon travail de cuisinière et de toujours être aussi créative. Être salariée, ça m'a jamais mis dans une position très confortable. Je sais pas où est le souci, si c'est l'autorité ou si c'est... Je sais pas, surtout en restauration, je suis pas à l'aise. J'ai l'impression que je me fais arnaquer quelque part, toujours, alors que parfois c'est dans des super endroits avec des super personnes. On travaille énormément, les salaires sont pas très attractifs, on n'a pas beaucoup d'avantages en restauration. Et du coup, je savais que je voulais monter mon affaire pour que, quoi qu'il arrive, si je devais en vouloir à quelqu'un, ça serait à moi d'en vouloir. Puis voilà, ça serait mes idées, ça serait pouvoir appliquer des choses qui me tiennent à cœur. Après, je sais pas si c'est la bonne idée, enfin, c'est vraiment une bonne solution, puisque derrière, je me rends compte qu'il y a pas mal de désavantages, mais voilà, ça vaut le coup de prendre le risque, et puis rien n'est éternel, et de revenir peut-être au salariat derrière, mais voilà, pour l'instant, c'est l'objectif, être indépendante.
À quel désavantage tu penses, ou tu t'es confrontée en montant ce projet?
On se rend compte que du coup, quand tu montes ton affaire, t'as pas forcément accès, tu ne cotises pas pour Pôle emploi, pour ta retraite, donc il faut penser tout ça. Tu n'as pas forcément d'arrêt maladie, je pense à des choses comme ça qui me viennent en tête, mais... c'est un gros risque financier, c'est un gros risque sur ta santé mentale, sur il y a quand même une sacrée organisation à tenir sur comment tu t'investis dans ton affaire, parce que après ça peut bouffer pas mal de choses sur ta vie sociale, ta vie personnelle tout court. Donc voilà, je me rends compte qu'il y a pas mal d'enjeux qu'il faut appréhender, et quand tu es un salarié, j'ai l'impression que tu es un peu plus couvert quand même, même si tu fais des horaires pas possibles, que tes heures sup sont pas forcément payées, au moins tu sais que tu as un petit matelas, quoi, de confort financier et mental, j'ai l'impression.
Quel lien tu vois entre les études que tu as faites et puis ce projet-là?
J'ai adoré mes études en école d'art, et en école d'art, j'avais pas une production de peinture, de photographie, de sculpture, des choses qu'on peut imaginer en tant qu'étudiant en art. J'avais surtout une posture de de prod en fait. Je m'occupais d'organiser toutes les expositions, de penser qui se mettra à côté de qui dans cette exposition. Voilà, il y aura telle œuvre ici, telle œuvre ici. Ok, la lumière elle va arriver à tel moment dans cette pièce, donc ça pourrait être intéressant qu'ici il n'y ait pas de vidéo. Ou... Voilà, j'étais surtout sur la prod, sur le buffet, sur penser la circulation des gens dans l'espace. J'étais déjà plus dans la supervision et c'était en fait ma manière de produire, c'était de penser avec les autres. Et au Beaux-Arts, il y avait une cuisine. Et dès qu'il y avait des événements, des fêtes, des expositions, etc., c'est généralement moi, avec l'association de l'école, qui m'occupais de penser les repas, qui allait faire quoi, à quel moment, etc. Donc il y avait déjà cette chose-là. Et pour financer mes études, j'ai travaillé dans la restauration. Et en fait, en sortant de mes études, j'avais envie de me spécialiser. J'avais envie d'être plus performante en cuisine. Et pourquoi pas en faire ma pratique artistique, me présenter dans des résidences d'artistes avec une pratique culinaire en fait. Et en fait, j'ai été prise dans le néant de la restauration et j'ai pris goût d'être au contact de gens, de devoir se surpasser, que ce soit vraiment physique et mental. Il y a un truc un peu d'adrénaline, quoi. Et c'est vrai que je ressens ce besoin parfois de revenir dans des cuisines. Bah, comme je suis en train de monter le projet, je travaille plus trop en restauration ou alors c'est périodique. Et par moments, mais ça me prend, il faut que j'aille travailler en restauration. J'ai trop besoin d'être au contact des gens, que ma créativité revienne. Voilà, donc le lien s'est fait comme ça, l'école d'art, superviser et ensuite vouloir me perfectionner. Et en fait, voilà. Aujourd'hui, mes assiettes, je les pense beaucoup visuellement. Et en fait, ma première formation vraiment, vraiment totalement dédiée à la cuisine, c'était auprès du chef Michael Gamet. Je suivais beaucoup son travail depuis des années sur Instagram et je voyais seulement ses assiettes. J'ai jamais goûté ou quoi que ce soit, c'était seulement visuel. Et j'y voyais des vrais... Enfin, j'y voyais un lien direct entre les couleurs, les textures, la composition dans les assiettes, même le contenant, les assiettes, je les trouvais dingues. Et du coup, je lui ai écrit un beau jour en disant « Voilà, j'ai envie de me former, j'ai aucun bagage, juste j'ai envie de me former, j'ai envie de me former auprès de toi. » Et en travaillant avec lui, j'ai compris qu'il avait une vraie pensée sur l'association des couleurs. En fait, pour lui, il y a un truc de pairing, donc d'association couleur-goût, et ça se vérifie sur certains écrits de chimistes, etc. En fait, la perception des goûts est souvent liée aux couleurs, et je trouvais ça dingue. Et puis, on faisait des recettes avec un nombre d'ingrédients, une liste d'ingrédients complètement dingue, beaucoup trop importante, pour chercher des goûts bien particuliers. Et du coup, ça m'a ouvert la sphère la sphère du visuel était déjà ouverte. Et après, il y a eu vraiment le gustatif, trouver le goût exact et savoir l'associer. Et puis du coup, dans l'assiette, il y a une dégustation visuelle, puis gustative. Voilà. Je pense que les Beaux-Arts m'ont servi à ça aujourd'hui dans ma pratique de cuisinière, d'amener d'abord le visuel avant le gustatif. C'est comme ça que j'ai l'impression qu'on déguste. En fait, on voit une belle assiette, ça donne beaucoup plus faim que... Quoiqu'une bonne choucroute mal présentée, ça donne faim aussi, mais... ça a fait appel à d'autres sens, je pense.
Parmi les choses qui m'ont surprise en écoutant l'histoire d'Apolline, ce sont les incroyables opportunités qui jalonnent le chemin de Cruchon Conserverie. D'abord, un programme d'accompagnement clé en main. Là, un appel à manifestation d'intérêt qui leur permet d'avoir prochainement accès à un local pour faire la cuisine. Ou là encore, un projet d'écolieu dans lequel Cruchon Conserverie trouvera toute sa place. On pourrait y voir l'action de fées penchée sur le berceau de la future conserverie, mais ce sont plutôt des opportunités provoquées par la rencontre et la curiosité de la jeune fondatrice.
Dès que je trouve un profil qui me paraît pertinent par rapport à ma manière de penser, j'hésite pas à contacter la personne. Quand j'étais à Paris, que je travaillais en restauration, je contactais pas mal de céramistes parce que les contenants sont hyper importants pour moi. Et du coup, après, ça crée des projets, des opportunités. Et en s'installant ici, on a contacté du coup des gens qui nous inspiraient, comme Mao, qui est cuisinière dans les Côtes d'Armor, comme Sarah Mingui, qui est cuisinière à Nantes et chef du restaurant Vacarme, Pierre-Antoine Arlot, qui est le fondateur de la maison Arlot Cheng, la boulangerie à Nantes. Et ensuite, de fil en aiguille, des discussions se font et sont diffusées à d'autres profils. Et en fait, ça crée un réseau. Et nous, du coup, on a eu l'occasion de rencontrer la famille Charrier pour s'installer à Ecoster en 2027. Ecoster, c'est un complexe écotouristique pas loin de chez nous, à Redon, sur l'île Lopi. On a Sarah Mingui, du coup, qui nous mentore via Service Compris jusqu'à l'ouverture de Cruchon.
Tu peux préciser ce que c'est, Service Compris ?
Service Compris, c'est une entreprise qui accompagne les porteurs de projets jusqu'à l'ouverture de leur business. C'est surtout pour l'entrepreneuriat food, donc pour des restaurants, des épiceries, des food trucks et j'en passe, avec un format accélération. Et donc, ils te livrent tous les contacts dont tu as besoin et tous les outils dont tu as besoin pour construire ton business plan, ta communauté, ta communication, trouver le lieu adéquat et j'en passe. Ils te livrent aussi du coup les contacts pour monter ton business, donc des artisans, des avocats, des comptables, des agents immobiliers et j'en passe. Et tout ça est supervisé par un mentorat, par un entrepreneur food de ta région. Plutôt très expérimentée, et donc nous, c'est Sarah Mingui qui nous mentore.
De quelle manière est-ce que vous vous complétez avec Léandre ? Comment vous partagez votre travail dans ce projet-là ?
Alors, on se complète hyper bien. Léandre, il a une capacité à analyser et à comprendre les choses assez impressionnante que moi, je n'ai pas. C'est du coup quand on fait des rendez-vous avec des machines hyper techniques, moi je comprends rien et Léandre c'est comme si c'était c'est limpide pour lui ce genre d'informations. Dès qu'il faut comprendre des business plans, des termes un peu techniques, un peu banquiers, moi je suis facilement larguée et Léandre pas du tout. Et pour le coup, moi, je suis très organisée, j'ai une capacité à hiérarchiser les informations et le moment où il faut les traiter, de manière à ce qu'on soit le plus efficace. Je fais tout le travail en amont pour lui de « Ok, aujourd'hui, il faut qu'on s'intéresse à telle information et qu'on la traite avant telle date. » Et du coup, j'arrive à pré-mâcher le travail. Léandre va être plus en profondeur sur la compréhension des choses qu'on a à traiter. Et moi, je vais être beaucoup aussi sur la com, sur la créativité, sur quelles vont être nos recettes. Et Léandre, plus sur la logistique, ok, avec qui on va travailler. Ça serait chouette qu'on s'intéresse à eux, leurs projets, pour pouvoir faire un lien, peut-être mutualisé. Je nous trouve extrêmement complémentaires et j'ai hâte de voir comment ça va être quand on va vraiment travailler ensemble dans le dur, au labo, dans la restauration, etc. Parce que pour l'instant, c'est super intéressant. Je me rends compte avec le recul qu'on a beaucoup de chance d'être à deux parce que c'est facilement, on se sent facilement débordé sinon. Et puis, dès qu'il y en a un qui a une lacune, bah, l'autre peut prendre le relais et puis c'est toujours se sentir soutenu, accompagné, toujours pouvoir échanger sur nos idées, se rendre compte de leurs limites ou alors de comment on peut les faire progresser. Moi, j'y vois beaucoup, beaucoup d'avantages. Peut-être que les inconvénients, c'est que du coup, bah, on en parle beaucoup, quoi. Il n'y a plus de temps mort. Tout est sujet à parler cruchon. On va au restaurant, bah, tiens, c'est marrant, ils font ça comme ça. On pourrait se l'approprier, le penser autrement. Ou on va dans un super lieu... en randonnée, ah mais ici il faut trop y faire un banquet incroyable, enfin voilà, tout est sujet à cruchon, mais moi c'est comme ça que je me pense de manière générale, je pense projet, je pense professionnel la plupart du temps et j'ai l'impression que Léandre aussi du coup, pour l'instant ça nous dérange pas, c'est plutôt enrichissant. Cruchon, c'est un récipient en grès avec un goulot court. C'est un ancien système de conservation pour des liquides comme généralement du vin. Et en fait, en cherchant des moyens de conservation, des noms, des idées pour notre nom, justement, bah, on a trouvé cet objet-là et on l'a trouvé super pertinent, super joli, super esthétique. Et qui sonnait bien. Et aujourd'hui, on se l'approprie un peu comme un verbe. On va crucher, nous cruchons. C'est un moyen de se dire qu'on va passer du bon temps, ouvrir des jolies bouteilles de soupe ou de vin ou de cidre ou j'en passe. Je pense qu'il y a trois valeurs qui sont quand même assez, assez importantes. La première, c'est valoriser les produits de nos maraîchers qui se battent tous les jours pour qu'on ait une alimentation riche et variée. Donc nous, le but, ce serait vraiment d'apporter une nouvelle source de revenus, de pouvoir valoriser leur travail en conservant ce qu'ils n'ont pas réussi à vendre, d'encourager le travail de nos maraîchers. La deuxième valeur, ça serait limiter le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, il y a un tiers du gaspillage alimentaire qui se fait directement sur les sites de production. On jette la pierre à personne, mais simplement en été, quand il y a moins de débouchés parce que votre clientèle est en vacances, et vous vous retrouvez avec 15 000 tomates sur les bras. Les marchés sont... Vous n'avez pas le temps de faire plus de marchés que de prévu. J'en sais rien, je donne des exemples bidons. Mais en tout cas, voilà, il y a des moments où on ne peut pas commercialiser ces produits-là. Et du coup, on se retrouve à les jeter au compost. Et ça serait chouette qu'il y ait des démarches qui existent, comme Cruchon, pour donner une seconde vie à ces produits qui seraient destinés au compost. Et la troisième valeur, ce serait le réemploi. Du coup, nous, on veut travailler avec des systèmes de réemploi. Je suis convaincue qu'il y a des systèmes qu'on a effacés, mais qui marchaient pourtant très très bien, et on les a effacés pour des raisons pas très jolies, comme par exemple le capitalisme. Et du coup, on va juste rechercher dans nos livres, dans les films, dans des podcasts, des systèmes qui ont existé avant, qu'on pourrait réappliquer, qui fonctionneraient mais peut-être autrement. C'est vrai que c'est des choses qu'on nous dit souvent quand on postule à des appels à projets pour des financements, des subventions, pour peu importe, pour des appels à projets. On nous dit « mais votre projet, il n'est pas assez innovant ». Mais on est totalement d'accord, nous, on n'est pas innovant. On va juste aller chercher des choses qui ont bien fonctionné, les réapproprier et les appliquer à notre localité. C'est tout ce qu'on veut faire. On ne veut pas créer des nouvelles matières. On veut juste faire vivre des choses simplement avec ce qui existe déjà. Rien ne doit être gaspillé, c'est tellement important, tout ce qu'on a autour de nous. Acheter du neuf, mais ça a un impact flagrant sur notre économie, sur notre écosystème, et gaspiller de l'alimentaire. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est quelque chose qui me tient hyper à cœur d'acheter en seconde main. Il y a quelque chose qui a été produit, ça peut être n'importe quoi. Un fruit, un légume, une bouilloire, cette chose, elle a été produite, elle a été pensée par des hommes, elle a été produite par la terre, par notre environnement. Et en fait, il faut l'utiliser à son maximum. Si j'achète un navet, je vais utiliser le navet, les fans, je vais tout utiliser dans le produit. Si j'achète une bouilloire, je vais l'acheter en seconde main parce que cette bouilloire, elle peut encore vivre, et je vais éviter de l'acheter neuve parce que c'est acheter des... C'est engrainer des systèmes qui ne me plaisent pas. Et voilà, je pense toute ma vie sous acheter au minimum. Et s'il faut acheter, il faut acheter mieux. Parce que consommer, c'est voter. Pour moi, c'est hyper important de se dire que l'argent qu'on va investir, l'argent qu'on a gagné et qu'on va investir, c'est une manière de voter qui est peut-être même plus pertinente qu'aller au bureau de vote.
Par quatre chemins, le podcast qui relie les histoires. À bientôt pour un prochain épisode. Montage, mixage, Magali Grolier, Camus.